12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre grand journal de la mi-journée, Pierre de Villeneuve est là. Et juste après, on fait bouger la France. Vous avez remarqué vous aussi que les cagnottes faisaient de plus en plus recette, tout comme le financement participatif. On a voulu comprendre pourquoi et on a invité les acteurs français à venir nous en parler. C'est ça la France qui bouge. Et c'est à partir de 13h.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
C'est une grande journée de mobilisation contre l'antisémitisme.
Avec Emmanuel Macron qui se rendra au mémorial de la Shoah en fin de journée. Pour le chef de l'État, la seule façon de lutter contre l'antisémitisme maintenant et dans les années à venir, c'est de faire République. Il s'est exprimé. Et en cette journée de mobilisation, l'horreur à nouveau. 80 sépultures d'un cimetière juif profané en Alsace. Grande page consacrée à cette actualité dès le début de notre journal. Vous entendrez la voix d'un rescapé d'Auschwitz pour bien comprendre ce que ce fléau de l'antisémitisme engendre en chacun de nous. Vous entendrez aussi Marine Le Pen qui ce matin sur Europe 1 dit que l'antisémitisme français du 21e siècle est essentiellement dû à l'islamisme radical. Et nous décrypterons tout cela avec le sociologue et historien Michel Wiewiórka. Dans ce journal également, François Ozon ce matin sur Europe 1. Le réalisateur s'est livré sans doute pour la première fois sur lui-même, sur ce qu'un geste déplacé d'un adulte aurait pu causer dans son existence. Édouard Philippe et le Twitch, nouvelle histoire politique et sociale, puisque c'est un réseau social. Aurélie Herbemont nous explique tout. Changer de mutuelle d'un coup d'un seul, c'est ce que voudraient les députés de La République En Marche, mais le sujet fait débat à l'Assemblée. Et puis ce soir, bien sûr, c'est le choc pour Lyon, qui accueille le Barça de Messi Lyon, qui est une sorte, vous le verrez, d'anti-PSG. La météo, Elena Morna, ça s'améliore.
Les nuages et les petites pluies qui circulent en ce moment entre la Gironde et la Champagne-Ardenne vont finir par s'espacer cet après-midi. De part et d'autre de cette zone déséclaircie, est toujours très beau en montagne et dans le sud-est.
Merci Elena, rendez-vous tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
L'horreur, à nouveau, spécialement en ce jour de rassemblement, Pierre, contre l'antisémitisme, un cimetière juif profané, ça se passe en Alsace.
Environ 80 sépultures vandalisées. Arthur Elmacher, vous êtes notre correspondant.
Oui, et bonjour Pierre. Alors ça s'est passé ici pendant la nuit dernière. C'est un habitant qui promenait son chien tôt ce matin qui a alerté les gens. Et donc, il y a ici dans le cimetière juif de Quetzenheim, sur les hauteurs de ce petit village à quelques kilomètres de Strasbourg, plus de 80 tombes profanées. C'est un cimetière juif qui est installé ici depuis la fin du 19e siècle. Des croix gammées, donc, qu'on a découvertes ce matin, peintes à la bombe en bleu ou en jaune sur plus de 80 sépultures. Et cette inscription qui peut paraître énigmatique, qui est écrite en alsacien, je vais vous la donner en version française, les loups noirs d'Alsace, qui seraient, pour être franc, on n'a pas eu le temps de tout vérifier, mais qui seraient un groupuscule d'extrême droite indépendantiste alsacien, mais sans connotation antisémite jusqu'à présent, a priori, les loups noirs d'Alsace, donc ici à Quetzenheim, dans ce cimetière juif, Quetzenheim, où habitent aujourd'hui une poignée de familles juive, hein, c'était, il y en avait beaucoup plus il y a encore quelques dizaines ou cinquantaines d'années, mais maintenant les habitants juifs des villages alsaciens sont assez peu nombreux. On nous annonce que le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, sera sur place ici cet après-midi, Pierre.
Merci pour ces toutes premières constatations au cimetière juif de Quetzenheim en Alsace. Merci Arthur Elmacher en direct. Emmanuel Macron, vous le savez, ne participera pas à la marche ce soir à Paris. Il se réserve, c'est assumé, de prendre de la parole demain au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Néanmoins, il accompagnera les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale au mémorial de la Shoah en fin de journée. Le chef de l'État qui vient de prendre la parole lors d'une conférence de presse. On l'écoute.
Je serai tout à l'heure à 18h15 au mémorial de la Shoah avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour rappeler les faits et pour dire ce qu'est la République, un bloc face à tout cela. Et pour rappeler ce qu'est l'antisémitisme, qui est la négation de ce qu'est la République et de ce qu'est la France. Ensuite, à l'appel des partis politiques, ces derniers se rejoindront place de la République et je pense que c'est une bonne chose. Sur l'antisionisme, je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une bonne solution. Mais je confirme que ceux qui aujourd'hui, dans le discours, veulent la disparition d'Israël, sont ceux qui, veulent s'attaquer aux Juifs. Je pense néanmoins que, lorsqu'on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes.
Voilà donc deux informations d'Emmanuel Macron au micro de Jean-Rémy Baudeau. La première, c'est qu'il se rendra au mémorial de la Shoah ce soir à 18h15. La deuxième, c'est qu'il est contre la pénalisation de l'antisionisme. Ce soir à Paris, le rendez-vous est à 19h, place de la République. On sait déjà qu'Édouard Philippe, avec une vingtaine de ministres, sera là.
En attendant ce grand rassemblement, Pierre, de ce soir, ce sont plusieurs villes de France qui ont marquer le coup, comme à Toulon.
Comme à Toulon, le maire Hubert Falco a présidé une cérémonie au Monument aux Morts. Où vous vous trouvez, Frédéric Michel ?
Et le rassemblement s'est achevé il y a une petite demi-heure. 200 personnes se sont réunies ici à Toulon devant le Monument aux Morts. Certains échangent encore. Frédéric, tenez à être présent.
Je ne suis pas de confession juive, mais pour autant, je suis à ma place ici parce que mes concitoyens juifs ont besoin aussi de ne pas se sentir seuls et ils se sentent seuls peut-être un peu parfois en ce moment.
Et c'est le visage grave qu'Hubert Falco, le maire de Toulon, a pris la parole.
Notre pays vit des heures d'une violence inouïe. Violence physique, violence verbale. La colère et la souffrance qui s'expriment dans nos villes et nos villages depuis plusieurs mois ne saurait justifier ces graves dérives qui déshonorent la République française.
Aïssati est l'un des représentants de la communauté musulmane dans le Var.
Il faut être ensemble pour montrer qu'on est contre toute forme de discrimination, toute forme de mépris vis-à-vis des autres.
Et pour le rabbin de Toulon, il faut à présent que la République aille plus loin.
Ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est que c'est la République qui a organisé cet événement, parce que c'est un problème de la République, c'est pas qu'un problème du judaïsme. Il faut passer aux actes, il faut à des lois, à des sanctions, à la poursuite, à tout.
Et le rassemblement s'est achevé par un dépôt de gerbes au Monument aux Morts et une Marseillaise.
Merci Frédéric Michel à Toulon pour Europe 1. Alors l'antisémitisme c'est quoi ? Tout le monde bien sûr trouvera une définition, c'est bien sûr la haine du juif, ça se traduit par des actes et ces derniers jours ces actes se sont multipliés, on l'a encore vu ce matin en Alsace, donc on ne peut plus dire qu'on est dans le cas isolé.
C'est la raison pour laquelle Europe 1 est allé demander son avis à une personne qui a vécu l'antisémitisme au plus profond d'elle-même dans les années les plus noires, dans la période la plus terrible.
Écoutez bien ce que va nous dire Raphaël Ezraï. Il a 93 ans, c'est un rescapé d'Auschwitz et ce qui se passe pour lui en France en ce moment, c'est très grave.
Ce qui se passe actuellement est pour moi profondément grave et choquant. J'ai tellement vu mourir de gens, tellement de souffrances. Tout cela à partir de quoi ? À partir de paroles, à partir de mots. Et lorsque l'on sait que de parole en parole, on arrive à voir, pendant la guerre, 6 millions de Juifs qui ont été assassinés parce qu'ils étaient Juifs. Alors, ce qui se passe aujourd'hui m'inquiète, je dirais même me fait pleurer. Il est temps que l'on se reprenne, il est temps que l'on prenne conscience. À un moment, le jaune s'est teinté de brun et peut-être même de noir. J'espère qu'une grande partie de la France manifestera justement sa réprobation à tout ce qui s'est passé. J'aimerais surtout m'adresser à la jeunesse. Ce que je crains, c'est que cette jeunesse puisse comprendre que l'on peut obtenir quelque chose que par la violence. Or, ce n'est pas ça. La vie n'est pas ça. Personne n'est toujours d'accord. La démocratie fait qu'il y a l'un et l'autre. On est pour, on est contre, on discute. Mais dès lors que le respect est parti, plus rien n'a de sens.
Voilà ces propos très forts d'un homme de 93 ans rescapé d'Auschwitz avec Théo Manval.
L'antisémitisme en France, il vient d'où ? Nous interrogerons le sociologue Michel Vivorca dans un instant. Mais d'abord écoutons l'avis de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1.
La vraie question aujourd'hui, c'est d'où provient cet antisémitisme ? C'est la question essentielle. Et tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été les uns et les autres au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui.
Le président
est-ce que
du
vous
CRIF,
me voyez,
Le Pen,
madame, aller aux côtés de ceux qui vont manifester en se donnant bonne conscience et qui, dès demain, continueront à accepter d'accueillir dans leur ville des imams qui professent la haine
alors,
des juifs, qui vont continuer à financer les mosquées salafistes. Je souhaite aussi expliquer aux Français qu'il faut que eux, ils prennent conscience de la gravité de la situation.
Marine Le Pen, ce matin, sur Europe 1, pour comprendre jusqu'au bout la situation dans laquelle on se trouve, nous accueillons Michel Vivorca. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue, historien, vous êtes bien sûr très au fait de cette question de l'antisémitisme en France. Est-ce que ce soir, vous allez participer à ce grand rassemblement ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y serai.
Parce que c'est important ?
C'est important parce que c'est une rencontre, un rassemblement qui va au-delà des intérêts politiques ou partisans. C'est d'ailleurs pourquoi je regrette les accusations des uns et des autres d'instrumentalisation, d'exclusion, etc. On ne devrait pas être dans des calculs politiciens, ou politiques même simplement. C'est qu'une cause républicaine générale.
Et il y a des gens qui ne le comprennent pas aujourd'hui, ou qui ne veulent pas le comprendre.
Écoutez, il y a de toute façon dans notre pays une partie de la population qui est, je dirais, surtout indifférente, qui ne voit pas l'importance de ce genre de choses. C'est un thème courant. J'avais été très frappé en lisant le grand poète polonais Miloš, qui décrivait, prix Nobel de littérature, qui décrivait comment à Varsovie, pendant qu'on raflait les Juifs, une partie de la population regardait tout ça de manière indifférente.
Mais est-ce qu'il y a des moments dans l'histoire et dans notre temps actuel, dans notre société actuelle, où il se révèle davantage et des moments où il se cache justement cet antisémitisme?
Ce qu'on peut dire, c'est que pour la période actuelle, deux tabous ont été levés. Le premier tabou, c'est celui qui transite par les réseaux sociaux. Donc, avec les réseaux sociaux, circulent toutes sortes de choses, dont la haine des Juifs. Donc ça, c'est une première barrière, si vous voulez, qui a sauté récemment, d'une dizaine d'années. Et la deuxième barrière qui a sauté plus récemment, c'est le tabou de la violence. Jusqu'à ces dernières années, la violence était tabou. Plus personne dans notre société ne la légitimait. Or, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on a vu dans les grandes villes et surtout à Paris, on a vu des scènes de violence parfois très impressionnantes qui ont été perçues par certains comme utiles à leur action. Autrement dit, bien des gilets jaunes sur les ronds-points étaient contre la violence, mais ils savaient aussi que ce qui se passait tous les samedis à Paris était bon pour les rendre visibles, pour qu'on parle d'eux et pour exercer une pression sur le pouvoir politique.
Est-ce qu'on peut dire les gilets jaunes aujourd'hui sont antisémites? Est-ce que c'est un raccourci supplémentaire? Est-ce qu'il faut nuancer le propos?
Oh, il faut même faire plus que nuancer. Dans l'ensemble, je ne crois pas que les gilets jaunes soient antisémites, mais comme tout mouvement social, leur action comporte toutes sortes d'éléments. Et parmi ces éléments, il peut y avoir une frange plus ou moins large d'antisémitisme, premièrement. Et puis, deuxièmement, leur action a créé des conditions favorables pour que s'exprime de l'antisémitisme à l'occasion, en particulier, des grands rassemblements parisiens. La personne qui a menacé si violemment Alain Finkielkraut est un salafiste. Ce n'est pas le profil moyen du gilet jaune des ronds-points, je ne crois pas.
Ce matin, sur Europe 1, Marine Le Pen dit qu'en France, au XXIe siècle, c'est l'islamisme radical qui est à la manœuvre des actes antisémites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
L'islamisme radical est profondément antisémite. Ça, c'est très clair, ça a été établi de façon absolument indiscutable. Ceci étant, l'islamisme radical n'explique pas tout. L'islamisme radical n'explique pas les quenelles de Dieudonné. L'islamisme radical n'explique pas les quenelles devant le Sacré-Cœur il y a quelques semaines. L'islamisme radical n'explique pas les profanations de cimetières juifs, etc. Donc oui, ça existe, personne ne devrait le nier, mais de là à tout ramener sur lui, on commet une erreur. La haine des Juifs, et la haine d'ailleurs de façon plus générale, elle se rencontre dans différents milieux. Donc il faut éviter cette vision monomaniaque d'un problème qui est très diversifié.
Merci Michel Viviorca, historien, sociologue, de vos explications. Je rappelle aussi l'un de vos ouvrages, L'antisémitisme expliqué aux jeunes, publié au Seuil. Et puis on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron, avant donc de se rendre au mémorial de la Shoah, se rendra également sur place, sur ce cimetière juif profané en Alsace. 80 tombes vandalisées au cimetière juif de Katzenheim.
Il est 12h43.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. La mort d'un géant de la haute couture, on l'a appris il y a quelques minutes seulement. Karl Lagerfeld s'est éteint. Il avait 85 ans.
Il est 12h45 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Il était une figure de la mode, un géant de la haute couture. Karl Lagerfeld est mort, Pierre, ce matin.
Oui, il est mort à 85 ans. Thierry Geffrotin, vous allez nous faire le portrait de ce géant de la mode.
Oui, Karl Lagerfeld, c'est plus de 60 ans de carrière, des défilés par dizaines, des collections, des nouveautés, des créations qui ont révolutionné la mode. Karl Lagerfeld était un génie, un bourreau de travail aussi, un amoureux, un passionné des tissus, des soies, des bijoux, des dentelles. Il a 16 ans lorsqu'il accompagne sa mère à un défilé de mode, son tout premier défilé. Il s'agit de celui de la maison Dior. Il commence alors à dessiner et il y croit au point de quitter l'Allemagne et de s'installer à Paris. En 1954, il a 21 ans, il remporte le premier prix du secrétariat international de la laine, premier ex aequo avec un certain Yves Saint Laurent. Dans le jury, il y a un grand nom de la mode, Pierre Balmain, qui embauche le jeune homme comme assistant. L'aventure va durer 7 ans, de 1955 à 1962. Sa carrière ensuite se poursuit chez Jean Patou, Chloé, chez Fendi également. Puis le grand tournant de sa vie en 1983, la maison de couture Chanel périclite depuis la disparition de sa fondatrice Coco Chanel. On est à deux doigts de la fermeture. Karl Lagerfeld est alors pressenti pour devenir directeur artistique de la marque pour perpétuer l'esprit de Mademoiselle Chanel. On m'avait prévenu, ne prenez pas Chanel, c'est affreux. Évidemment, il accepte avec sa propre conception. Si vous voulez tuer une maison, montrez-lui du respect. Parallèlement, en 1984, il crée Karl Lagerfeld, sa propre maison de couture. En 2004, H&M, oui, H&M fait appel à lui pour lancer une collection accessible à toutes. Trois ans plus tard, après avoir revendu toutes ses marques, il crée K par Karl. Lagerfeld ne se refuse rien, a priori, il ne refuse rien. La preuve, en 2008, il pose pour une publicité pour la sécurité routière. On le voit avec un gilet jaune réfléchissant. En 2011, c'est lui qui dessine le nouveau maillot de l'équipe de France et il devient l'égérie de la pub Volkswagen. Karl Lagerfeld était aussi passionné de photographie, ouvrant en 1998 la Lagerfeld Gallery et réunissant ses deux passions, il a lui-même réalisé plusieurs campagnes publicitaires pour Chanel. Provocateur, trash même, pas de langue de bois chez Lagerfeld. Ainsi, à propos de ce qui pourrait se passer après sa mort, il disait « Des funérailles comme Johnny, quelle horreur, plutôt mourir !»
Enfin voilà, cet artiste, photographe, amoureux de la mode, amoureux de la vie. Vous parliez de Saint-Laurent, évidemment, il y a eu toute une histoire avec Yves Saint-Laurent, on l'a vu dans les différents biopics. Karl Lagerfeld qui s'était montré très fatigué ces derniers jours, il n'avait pas assisté au dernier défilé de Chanel qui avait été remarqué. Et bien sûr, Karl Lagerfeld a été maintes fois invité sur notre antenne.
Oui, Raphaël. Le couturier allemand, célèbre pour son catogan, ses lunettes, ses tenues noires et blanches. Que disait-il de lui quand il fallait dresser son autoportrait, écoutez.
Illustrateur, caricaturiste, portraitiste. C'est ça que je voulais faire. Mais je ne savais pas que la mode, ça pouvait être un métier ou qu'on pouvait en faire un métier et tout. Et c'est par un hasard d'un concours que j'ai gagné, que je suis rentré là-dedans. Je n'ai jamais fait d'école de mode ni rien, mais j'ai vite pris goût parce que ça correspondait à ma nature.
Qu'est-ce que vous dessiniez quand vous aviez 10 ans ?
Des illustrations pour ce que je lisais, surtout, et des portraits des gens autour de moi.
Pas du tout de robe, pas du tout
si,
de...
Si, mais dans les costumes, des illustrations, l'histoire des costumes jouait un grand rôle. Ouais. Et quand j'avais 10-12 ans, ma mère est allée voir un ami à elle, qui était le directeur des Beaux-Arts d'Hambourg, en lui montrant les dessins. Et le monsieur lui dit, écoutez, il dessine très bien votre fils, mais je vais dire une chose, il ne s'intéresse qu'aux costumes, parce que regardez tous les détails qu'il y a dans les costumes. Finalement, le monsieur avait vu juste.
Voilà donc Karl Lagerfeld et sa bonne humeur au micro de Michel Drucker. C'était sur Europe 1 en 2009. Bonjour Olivier Saillard.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur du Palais Galliera, vous êtes historien de la mode. Évidemment, j'imagine que cette nouvelle vous affecte.
En fait, oui, parce que c'est une des personnalités de plus de la mode qui disparaît. Et avec la disparition de Karl Lagerfeld, c'est définitivement une période bénie de la mode qui s'éteint.
Est-ce qu'on peut dire pour autant que la haute couture s'éteint peu à peu en France ou est-ce que c'est trop fort ?
Ah, la haute couture s'éteint depuis les années 50. Donc on peut dire sans surprise que c'est une vieille dame dont on continue de sacraliser la flamme, mais ce n'est pas une réalité très tangible. Je pense qu'elle est encore amenée à vivre, mais entre 60 maisons de couture qu'il y avait dans les années 50 et peut-être moins de 10 aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Quel est le mot, Olivier Saillard, que vous emploieriez pour qualifier justement Karl Lagerfeld ?
Une force de travail. Une force de travail alliée à une grande culture. Et puis, il était à la fois aussi despote qu'il voulait bien le jouer médiatiquement qu'un être pétri de gentillesse, de culture. Je ne connais pas un seul des adjoints, des collaborateurs de Karl Lagerfeld qui l'ait quitté de tout le temps où ils l'ont accompagné. C'est une chose, ça, quand quelqu'un sait s'entourer et sait garder ses collaborateurs, cela parle aussi d'une manière très humaine de lui.
C'est ça aussi, la mode et la couture en général, c'est le background, le fait d'avoir énormément lu. On sait que Karl Lagerfeld avait une collection de livres absolument époustouflante chez lui, c'est-à-dire se nourrir de richesses très très différentes pour pouvoir créer.
Alors en mode, il y a tout et tous les opposés. Il y a des couturiers qui ne veulent pas lire et qui ne veulent pas apprendre et qui sont pour autant des grands, comment dire, contributeurs à l'histoire de la mode. Et puis il y en a d'autres quand même qui essaient de mettre un sédiment de connaissances au cœur de leur travail. Et c'était aussi le fait, le propre de Karl Lagerfeld, comme il y avait dans l'histoire de la mode de grands collectionneurs, de grands bibliophiles comme Jacques Doucet.
Un géant de la haute couture avec des égéries multiples, connues, célébrées aussi par lui.
Ah oui, célébrées. Et puis ses premiers pas chez Chanel avec la collaboration de Inès de la Tressange avaient résonné très fort, en partie grâce à cette collaboration avec Inès, parce que c'était tout à coup redonné à la maison Chanel une allure délurée.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Saillard, pour cette toute première réaction à la mort de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld qui nous quitte à l'âge de 85 ans.
Il est 12h52.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. François Ozon, à 48 heures de la sortie de son film, le cinéaste a tenu des propos très marquants ce matin sur Europe 1. Et puis nous parlerons football, bien sûr, puisque Lyon accueille le Barça de Messi.
Europe 12h54 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Avec le film Grâce à Dieu, et toujours cette question, Pierre, sortira-t-il demain ?
Eh bien, après une première victoire judiciaire hier, le cinéaste attend une deuxième décision de justice ce mardi. Régine Maire, ex-membre du diocèse de Lyon, demande que son nom soit retiré du film au nom de la protection de la vie privée et de la présomption d'innocence. Ce matin sur Europe 1, François Ozon nous est apparu serein quant à cette question qui pourrait retarder la sortie du film. Mais vous allez l'écouter, car ce qu'il a dit aussi à Nikos Aliagas est plus personnel. Il parle d'un geste qui, dans la vie de tout adolescent, peut provoquer beaucoup de conséquences.
J'ai confiance en la justice, je sais que le film n'est pas à charge contre cette dame, je la monte dans son cadre professionnel, dans un cadre public, et de toute façon, si la justice nous ordonnait de changer ça, ça voudrait dire que le film ne sort pas, donc ça serait une forme de censure. Donc voilà, je suis zen. Moi, j'ai voulu raconter une histoire qui m'a ému, des personnages que j'admire, qui sont héroïques, et voilà, j'ai eu envie de raconter leur combat et montrer toute la difficulté que ça représente d'oser parler. En travaillant avec toutes ces personnes, toutes ces victimes qui me racontaient des histoires, voilà, on se remémore des choses de son enfance, on se souvient d'un geste d'un adulte qui aurait pu dérailler, voilà, on a tous connu ça dans notre
une
enfance, donc il y a des résonances, donc, et on sait que voilà, notre vie aurait pu être bouleversée, partir dans une autre direction à cause d'un geste dramatique qu'un adulte peut avoir sur un enfant.
Voilà, François Ozon, intime ce matin au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1.
Ce soir, le choc, le Barça vient affronter l'Olympique Lyonnais sur sa pelouse.
Et oui, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, soirée spéciale sur notre antenne. Rendez-vous dès 20h pour suivre la rencontre en direct et en intégrale avec nos commentateurs autour de Lionel Rousseau.
Il est 12h55.
Europe 1.
Restez avec nous, on parle cagnotte et financement participatif à la française, bien sûr, sur Europe 1 dans une minute.
C'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna, retour des éclaircies sur le nord-ouest.
Oui, la perturbation qui a tenté d'assombrir notre séquence printanière est en train de mourir sur place. Alors on a quand même en ce moment les dernières averses entre la région centre et les frontières allemandes. À l'arrière, sur les pays de la Loire et le Poitou-Charentes, un ciel nuageux cet après-midi, mais de plus en plus d'éclaircies sur le nord de cette même Loire, jusqu'en Champagne et aux Ardennes. Belle journée au sud, mais là aussi quelques nuages sur le sud-ouest, sauf sur les cimes des Pyrénées. Les températures en baisse, ça va remonter à partir de demain. En attendant, on aura 9 à 16 degrés cet après-midi du nord-est vers le sud-ouest, 12 à Quimper, à Lille, à Paris, Saint-Étienne et Belfort. Et puis demain, votre matinée sera hivernale, fraîcheur et grisaille au nord. L'après-midi sera beaucoup plus printanière, en tous les cas avec de très belles éclaircies sur le tiers nord du soleil au sud et 10 à 20 degrés.
Merci